France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Jeanne Moreau et la chanson. Comédienne exigeante et rigoureuse, Jeanne Moreau n'aimait pas qu'on la dise chanteuse, bien qu'elle fût l'une des rares à avoir réussi à s'imposer également dans ce domaine. Elle considérait simplement la chanson comme un prolongement naturel de la comédie et n'a d'ailleurs quasiment jamais donné de véritable tour de chant. C'est par le disque qu'elle a offert sa voix grave de diseuse aux mots de poètes comme Resvani, Norge, Guy Vic, Duras, Genet et Ossien. Au fil des archives radio et des enregistrements familiers ou moins connus, Tour de Chant va durant 3 émissions brosser un panorama sensible des chansons de Jeanne Moreau de 1953 à 2010. Une autre façon de décrire sa carrière à l'occasion de l'hommage qui lui sera rendu au Théâtre de l'Odéon le 4 décembre prochain.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on. Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris. Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens. Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche.
Née en 1928 à Paris d'une mère anglaise, danseuse aux Folies Bergères, et d'un père français qui tient le restaurant à la Cloche d'Or à Paris 9e, fréquenté par de nombreux artistes après le spectacle, Jeanne a passé quelques années de son enfance en Angleterre, où elle a été bercée par des chansons du folklore et par les chansons à la mode. Tout comme à Paris, où elle a conservé le souvenir d'une grande présence de la chanson dans la vie quotidienne, avec les chanteurs de rue, la radio, et même chez les ouvriers au travail. Elle prend des cours de danse classique, mais néglige un petit peu d'apprendre la musique. Tout en achevant ses études secondaires, elle suit à l'insu de ses parents des cours de théâtre dans la classe de Denis Dinès au conservatoire. Engagée à 19 ans comme pensionnaire élève à la Comédie Française, elle y restera durant 4 ans. Elle a déjà l'occasion de chanter dans certaines pièces de Molière et de Beaumarchais, accompagnée à la harpe par Lily Laskin. En 1952, elle quitte le français pour entrer au Théâtre National Populaire, où elle suit durant 2 ans l'aventure de Jean Villard et Gérard Philippe. Parallèlement, elle fait ses débuts au cinéma dès 1949 dans divers petits rôles. C'est ainsi qu'on peut la voir en 1950 dans le film d'André Berthomieu « Pigalle Saint-Germain-des-Prés » chanté avec le chœur et l'orchestre de Jacques Ellian. Après le TNP, Jeanne aborde le théâtre de boulevard. En avril 1955, pour l'émission « Les clés du succès », elle raconte à Jean-Claude Michel et Paul Emmanuel les étapes de sa progression.
Et malgré tous ces rôles, vous avez quitté le TNP. Pourquoi ?
J'ai quitté le TNP parce qu'à l'époque, il ne pouvait plus offrir pour moi un très grand intérêt. Et Villard avait des projets de pièces où il n'y avait pas de rôle particulièrement intéressant pour moi. Et puis en effet, il faut croire que j'aime toujours tenter de nouvelles chances. Enfin, tenter de nouvelles chances quand elles se présentent à moi, il faut bien le dire.
Vous avez eu une nouvelle chance.
Oui, j'ai eu une nouvelle chance parce que Simone Berriot, qui m'avait vu jouer dans les caves du Vatican, m'a demandé de jouer Belle de jour, une pièce tirée du roman de Kessel par Philippe Heria. L'affaire ne s'est pas faite, mais elle a tout de même pensé à moi un mois après et m'a demandé de jouer L'heure éblouissante.
Ah, L'heure éblouissante, vous avez eu pour ce rôle une presse extraordinaire et je crois que l'on peut compter ce rôle comme un des tournants importants de votre carrière car il vous a fait connaître d'un public nouveau, en tout cas d'une partie du public qui ne fréquente peut-être pas la Comédie Française, le TNP.
Mmh. Et puis la presse s'est emparée, à juste titre, du tour de force que vous avez effectué quelques jours après La Générale en remplaçant au pied levé Suzanne Flon et en jouant les deux rôles féminins de L'heure éblouissante.
Oui, j'avais d'abord refusé à Simone Berriot de le faire. Mais le metteur en scène, Fernand Ledoux, m'a décidé. Je connaissais très bien Fernand, parce que j'avais travaillé avec lui à la Comédie Française. Il avait été mon metteur en scène dans Tartuffe. Et il m'a dit que je pouvais le faire, qu'il avait confiance en moi. Et c'est pourquoi j'ai tenté cette chance. Et en plus de ça, il faut aussi que je dise que les jeunes comédiens à la Comédie Française sont quelquefois, et même assez souvent, appelés à accomplir ce genre de tour de force. On n'en parle pas, mais il arrive très souvent qu'un acteur remplace un sociétaire, par exemple, en 48 heures, dans un rôle très, très important.
C'est peut-être même une chose que vous aviez déjà faite avant.
Oui, je l'avais déjà faite, oui, pour les temps difficiles.
Mais dites-moi, vous ne nous parlez pas de votre talent de chanteuse. Il me semble bien que dans L'heure éblouissante, vous chantiez une chanson.
Ah oui, oh oui, mais mieux vaut n'en pas parler.
Nous n'en parlons pas, mais écoutez.
Amour, amour, belle inconnue, tant espéré, tant attendu, un beau soir tu m'es apparu, bon voyageur, d'où venais-tu? Tu m'as donné toute la nuit. Mais lorsque le soleil a lui et que j'ai repris mes esprits, mon amour, tu étais parti. L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Bonjour, bonsoir, bel étranger. L'amour s'en vient, l'amour s'en va. Il m'a laissé de quoi rêver, de quoi rêver. Et ma chanson ne finit pas, ne finit pas.
L'amour s'en vient, l'amour s'en va, composé par Paul Misraki sur des paroles de Claude Marcy, tiré de la pièce L'heure éblouissante, était chanté sur scène par Jeanne Moreau et Suzanne Flon. Il s'agit du tout premier disque de Jeanne Moreau, un 78 tours d'Eka, enregistré en 1953 et devenu, de par ses ventes modestes, une vraie pièce de collection. Le cinéma prend de plus en plus de place dans la carrière de Jeanne et il arrive qu'elle chante dans certains films comme Dortoir des Grandes en 1952 ou deux ans plus tard dans La Reine Margot. À cette époque, Jeanne et son mari d'alors, le comédien Jean-Louis Richard, jeune premier chez Louis Jouvet, fréquentent un groupe d'amis parmi lesquels se trouve le peintre Serge Resveni. Celui-ci vit avec sa compagne Danielle, surnommée Lula, dans un studio près de la Porte d'Orléans. D'origine persane, Serge aime chanter, mais il regrette de ne pas avoir appris la musique. Encouragé par Jean-Louis Richard, il se met à la guitare et compose sur deux cordes à peine, avec des accords très simples, une série de chansons inspirées par Lula, comme une sorte de journal chanté. Il les fredonne d'abord pour eux deux, puis lors des dînettes de spaghettis organisées chez Jean-Louis, rue de Douai, pour ses amis, qui finissent d'ailleurs par connaître par cœur toutes ces chansons. Après de nombreux va-et-vient, Jeanne Moreau et Jean-Louis Richard se séparent, de sorte qu'elle s'éloignera un petit peu de cette bande d'amis. Sa rencontre avec Louis Malle en 1956, alors qu'elle joue une chatte sur un toit brûlant, au Théâtre Antoine, s'avère déterminante pour sa carrière et sa vie personnelle. Les films Ascenseur pour l'échafaud, puis Les Amants, qui provoquent un scandale lors de sa sortie, en font une héroïne moderne. C'est au Festival de Cannes, en 1958, que Jeanne fait la connaissance de François Truffaut, présenté par Louis Malle. Une relation amicale se noue et qui finira par déboucher en 1961 sur le tournage de Jules et Jim, film adapté du roman homonyme d'Henri-Pierre Rocher où l'héroïne se partage entre deux amants incarnés par Oscar Werner et Henri Serre.
Le balancement du rocking chair nous conduit au plaisir de la chair.
Et cette chanson,
ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui fut. Fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Cette chanson, elle a été chantée et composée en même temps par Serge Resvani, qui est écrivain maintenant et qui était peintre, avec le père de mon fils. Il s'était acheté au puce, une guitare, un banjo, et puis se racontait des histoires et les faits divers. Et ils inventaient des chansons drôlatiques. D'ailleurs, toutes les autres, je les ai enregistrées, j'ai fait 2 disques. Et lorsque le père de mon fils et moi, nous nous sommes séparés, ça a été un moment difficile. Et Serge a pensé, on s'est aimé, et il a fait le tourbillon de la vie. C'était la pérennité de l'amour. Et quand je faisais des voyages en voiture avec François Truffaut, on chantait tout le temps. Et cette chanson revenait. Et lorsque nous tournions dans le Jura, Jules et Jim, un week-end un petit peu plus long que d'habitude, parce que François voulait retravailler le scénario, transformer certaines scènes, des dialogues, tout d'un coup il m'a dit, mais Jeanne, ça vous ennuie qu'il y ait le tourbillon de la vie? Je dis non. Si Jean est d'accord, moi je veux bien, si Serge aussi. Serge tournait. Et on n'avait pas d'ingénieur du son parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était un tout petit budget. Alors on a fait venir un ingénieur du son une journée. Et cette chanson, qui était faite pour un couple qui s'était séparé, mais qui s'était retrouvé après, dans quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'est pas l'amitié, qui n'est plus l'amour, mais qui est une sorte d'attachement indestructible, allait très bien pour Jules et Jim.
Jeanne Moreau, ici au micro de Jean-Luc Hesse pour l'émission de France Inter Synergie en mars 1997, gardait intact le souvenir de la création du tourbillon. Fuyant toute idée de vedettariat liée à ses chansons, Serge Resvani, qui entre-temps était parti s'installer avec Lula dans le Var, où il continuait à composer pour son plaisir, a pris le pseudonyme de Basiak, qui signifie « va-nu-pied » en russe. En janvier 2003, pour l'émission de France Culture Les Nuits Magnétiques, j'avais demandé à Resvani comment il a composé avec cette volonté de conserver un certain anonymat.
Vous vous êtes en quelque sorte masqué derrière ce pseudonyme, et pourtant vous apparaissez à l'écran dans Jules et Jim, vous accompagnez Jeanne Moreau à la guitare.
Voilà.
Oui, c'est un peu paradoxal.
Oui, non, parce que là, vraiment, personne ne pouvait faire le rapport que les intimes, finalement. Non, ce que je craignais, c'est surtout être... Ben, la preuve, j'ai eu un émissaire d'Hollywood qui est venu me demander de venir à Hollywood pour faire des musiques de films.
Juste après la sortie de Jules et Jim.
Oui, exactement, après la sortie. Donc, ce qui est amusant, c'est que Truffaut m'a demandé d'accompagner Jeanne sur les 3 notes, toujours pareil, parce que ça lui plaisait beaucoup que ça soit si pauvre, si intime. Mais bizarrement, j'avais fait une fausse note et Philips ne voulait pas sortir le disque. Et il y a eu une telle demande qu'ils ont été obligés de sortir le disque quand même. Mais en fait, le disque aurait dû ne jamais sortir. Parce que j'avais fait une fausse note sur la guitare.
Et d'ailleurs, c'est la seule chanson, parmi celles qui a enregistré Jeanne Moreau, qui n'a pas été faite en studio.
Non, absolument, elle a été faite, c'est une seule prise. On n'a même pas tourné 2 fois, ça a été fait dans la spontanéité absolue.
Ainsi, pour Jules, leur amour entrait dans le relatif, tandis que le sien à lui était absolu. Le lendemain matin, Jim quitta la maison. Catherine voulut une fois de plus l'accompagner jusqu'à la gare. Dans la nuit, le brouillard avait envahi la prairie. Le reste de la ruche, qui n'était pas au courant, sentit confusément que Jim n'était pas d'accord avec leur reine. Son départ était donc normal.
Avec Jules et Jim, sorti en janvier 62, Truffaut s'affirme comme un des réalisateurs phares de la nouvelle vague. La musique de Georges Delru joue également un rôle prépondérant, mais la chanson de Bassiac, ajoutée lors du tournage, ne doit rien au compositeur. Considérant qu'elle donne son ton au film, François Truffaut en raconte également la genèse.
Jules et Jim, c'est toutes les femmes en une seule.
On voit déjà plus la maison.
Alors dans Jules et Jim, Jeanne Moreau a eu l'occasion de chanter pour la première fois. Je l'entendais chanter, puisque entre-temps j'étais devenu très ami avec elle, et je l'entendais chanter à la campagne ou chez des amis. Et un de ses amis, le peintre Resvani, écrivait de très jolies chansons, également en amateur, enfin ne prétendait pas les publier, ni les chanter, ni les éditer. Mais il les écrivait toujours un peu en pensant à Jeanne. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de faire entrer Resvani lui-même dans le film, en tant que petit rôle, en tant qu'un petit personnage, qui écrivait une chanson pour elle et elle la chantait. Et le succès, là encore, de cette chanson a été absolument imprévu. C'était le tourbillon qu'on a, je sais si on l'a entendu, et qui a révélé, en plus des dons de Jeanne Moreau chanteuse, ceux de Bassiac, c'est le pseudonyme de Resvani, ceux de Bassiac comme compositeur. Et je crois que le disque que Jeanne Moreau a fait avec uniquement des chansons de Bassiac est très beau. Et personnellement, plus que le tourbillon qu'on a tellement et tellement entendu, j'ai une préférence pour une chanson très triste qui s'appelle Ni trop tôt ni trop tard et que je trouve nettement plus belle que les autres.
Peu m'importe la tyrannie et le règne des soudards, tant qu'ils nous laissent la vie, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie, de nos corps des chatteries, on fait périr mon cafard. Le bourdon du désespoir a pétri toute ma vie. Le bourdon du désespoir, tes angoisses les plus noires. Peu m'importe vos sarcasmes et vos hoquets goguenards, uniforme du marasme, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie a repris goût à la vie, en bénissant les hasards qui nous firent naître ensemble, et pas d'un siècle d'écart, qui nous firent naître ensemble, ni trop tôt et ni trop tard. Peu m'importe les mensonges dont on broda nos berceaux.
Après le succès du tourbillon, Jacques Canetti, directeur artistique chez Philips, demande à Jeanne Moreau si elle a d'autres chansons à proposer et elle lui répond que Bassiac en a écrit beaucoup. Lorsque Canetti quitte Philips peu après pour fonder son propre label, Jeanne lui reste fidèle et c'est ainsi qu'en 1963, paraît aux productions Jacques Canetti le premier disque 33 tours de Jeanne Moreau avec 12 chansons de Cyrus Bassiac, alias Serge Resvani. Il a été enregistré en un temps record à la Comédie des Champs-Élysées. Ces chansons lumineuses et sensuelles, qui sortent des conventions, correspondent à merveille à l'interprétation de Jeanne Moreau et son disque connaît un vrai succès public, couronné l'année suivante du Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Elle est ici interviewée par Jean Grunebaum pour l'émission Avant-première en mai 1963.
Je voudrais savoir ce que vous apporte la chanson en plus.
Parce que ça va m'apporter, je le saurai plus tard, mais pour le moment, ça m'amuse, ça me change.
Et lorsque vous chantez, est-ce que l'émotion, enfin nous dirons, le trac que vous ressentez est comparable au trac de la scène quand vous jouez la comédie?
Oh non, alors ça n'a rien à voir du tout. Parce que quand on chante, on est tout seul, alors on est la seule cible unique et on se sent détaillé des pieds à la tête. Alors que quand on joue la comédie, il y a un décor, il y a des acteurs, il y a un tas de choses qui se passent. Alors là, c'est tout à fait différent.
Si l'on vous proposait d'abandonner la scène, l'écran, pour le tour de chant, est-ce que vous accepteriez ce changement?
Oh non, je ne suis pas une vraie chanteuse, j'apprends. Abandonner la scène et l'écran pour faire un tour de chant, certainement pas, non.
Votre répertoire actuel comporte évidemment des chansons sur mesure. Quelles sont ces chansons?
Elles sont pas sur mesure, non, ça c'est faux. C'est des chansons d'un garçon qui invente des chansons comme ça pour se délasser, mais qui n'est pas compositeur. Parmi ces chansons, il y avait des chansons que je pouvais chanter. Il y a même des chansons d'hommes que j'ai chantées. Le tourbillon, par exemple, qui est de lui, c'est une chanson d'homme. Personne s'en est aperçu. Ça devrait être chanté par un homme. Et je ne chante que ces chansons-là, mais c'est un peu le cycle de l'amitié, je veux dire, ça s'est trouvé comme ça. C'est très particulier, l'écriture de ces chansons est très simple, mais en même temps elle n'est pas bête. Parce qu'en général, on confond la simplicité et la bêtise. Là, ça, c'est pas intellectuel, mais c'est pas sot.
Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai teinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne, me donnerait envie de ne plus changer ma vie. What? Je me suis trompée là.
La répétition.
Oui.
Est-ce que Jacques Canetti va faire de vous une vedette de musical? C'est-à-dire, est-ce que vous allez monter sur un plateau et faire ce que fait par exemple Madame Gréco, Madame Piaf?
Écoutez, ça alors j'en sais rien du tout. Je sais une chose, c'est que je n'aurais jamais fait ce disque s'il n'y avait pas eu Monsieur Canetti.
Oui.
Parce que j'ai vraiment très peur. J'ai peur comme je n'ai jamais eu peur. Et aux séances d'enregistrement, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Enfin, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu le faire. Et s'il n'y avait pas eu la présence de Walt Zwengel, aussi, je n'aurais pas pu le faire. Dire que les musiciens ont vraiment été épatants.
C'est plus difficile, vous trouvez, que la chanson?
Bah, vous vous rendez compte.
Non,
c'est quelque
je
chose de tout à fait inhabituel. Et puis, je veux dire que la voix, c'est comme un instrument. Et on a autour de soi, quand on enregistre avec un orchestre, on est entouré d'instruments qui ont l'air parfaitement maîtres d'eux-mêmes et qui donnent exactement les sons qu'on attend d'eux, alors que cette espèce de chose qui est cachée là-dedans, moi, je ne la connais pas très bien, je ne sais pas du tout ce que ça va donner.
Est-ce que vous pensez qu'on peut dire, à travers une chanson, des choses aussi violentes, aussi fortes que ce qu'on peut dire à travers un rôle?
Oh, bien sûr, ça certainement. Ça, j'en suis persuadée. Enfin, je suis une spectatrice de musical et j'écoute presque tous les disques qui paraissent. Et, enfin, c'est assez sensible, non?
Et dans vos chansons, prenons la chanson que vous préférez, par exemple. Mmh. Comment s'appelle-t-elle?
C'est une chanson d'amour.
Oui.
Je vous la chanterai pas.
Non, mais dites peut-être ce qu'il y a dedans. Quel genre d'amour qu'on voit dans cette chanson?
Ça s'appelle « Ni trop tôt, ni trop tard ».
Oui.
Dans cette précieuse archive de 1963, Jeanne Moreau nous révèle donc que, comme Truffaut, elle aime particulièrement « Ni trop tôt, ni trop tard ». Outre « J'ai la mémoire qui flanche » et « La vie de cocagne », il y a une autre chanson de Serge Resvani, très courte, intitulée « La vie s'envole », qui a marqué les esprits à l'écoute de ce premier album de Jeanne Moreau.
Les hommes, ils aiment les femmes, elles aiment les hommes à femme. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à tête ronde, près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes, ils aiment les femmes.
Comment Jeanne Moreau avait choisi, enfin, ou comment avait été choisi, soit par vous, soit par elle, les chansons de ce fameux premier 33 tours, puis du deuxième?
En écartant les chansons trop intimes que je ne voulais pas qu'elle chante.
Mais elle les connaissait, certaines, j'imagine.
Oui. Oui. Mais je ne tenais pas à ce qu'elle les chante. Bon, donc ça, c'était presque un contrat moral quoi, entre nous. Elle n'avait pas beaucoup de choix. Elle n'avait qu'un choix assez restreint quand même pour elle. Bien que j'en avais déjà composé peut-être 60 ou 70, je ne sais pas. Et donc ça a été assez compliqué. Et puis il y a eu des chansons qu'elle a enregistrées, qu'on a écartées. La fermeture glissière. Et une que j'aimais énormément qui s'appelait Orly. Et que bizarrement, Canetti a écartée au moment où Becco a écrit aussi un Orly. Je sais pas ce
Dimanche à Orly.
Oui, voilà. Ouais. Et donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais...
Vous avez deux chansons sur le même thème.
Au même moment.
Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà, les jets intercontinentaux au loin crachent leur feu. Sur les pistes géantes, c'est l'heure des adieux. C'est l'heure des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux. À l'heure des adieux, minuit, Orly, c'est l'heure des adieux.
Minuit Orly fait partie des quelques chansons de Bassiac, alias Rezvani, enregistrées dans les années 60 par Jeanne Moreau, qui n'ont pas été retenues pour l'édition des deux disques 33 tours. Le premier, sorti donc en 1963, a été orchestré par Ward Swingle, fondateur du groupe vocal Les Swingle Singers, et le talentueux François Robert, habitué à accompagner de multiples chanteurs comme Jacques Brel. S'il rencontre un vrai succès public, cet album ne plaît pourtant pas totalement à l'auteur des chansons, Serge Rezvani, d'ailleurs contraint à en co-signer certaines avec divers musiciens professionnels. Il évoquera cette question en octobre 2001 sur France Inter dans le Pop Club de José Arthur.
Ça faisait 30 ans que je n'avais ni écouté les disques de Jeanne Moreau, ni touché une guitare. Ça, c'est un peu à cause de Canetti, pas à cause de Jeanne Moreau, parce que je n'ai jamais été d'accord avec Canetti qui avait mis trop d'orchestration. Il avait fait faire des orchestrations derrière Jeanne Moreau qui ne m'a jamais plu. Moi, j'aime bien trois notes de guitare. Rien ne vit plus que des accompagnements, quoi, finalement.
En 1966, Jacques Canetti sort un nouveau disque avec 12 chansons de Bassiac, dont le célèbre « Tout morose », avec cette fois des arrangements plus épurés signés du guitariste Elek Bakchik. Pour l'occasion, Jeanne Moreau est interviewée au mois d'avril pour le programme Okora.
Jeanne Moreau, vous venez de sortir un disque avec 12 chansons, et puis on parle aussi d'un tour de chant.
Oui.
Alors pourquoi cette offensive sur le front de la chanson ?
Oh, ce n'est pas une offensive, je ne suis pas du tout agressive de nature, c'est simplement un désir que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours aimé chanter, d'ailleurs j'ai déjà fait un disque il y a 3 ans. Et puis comme mon meilleur ami compose ses chansons et qu'il en a composé beaucoup pendant ces dernières années, j'ai eu envie de les chanter. Le fait de me concentrer un petit peu sur la chanson et de travailler avec des gens avec lesquels je m'entends merveilleusement m'a donné le désir de revenir au théâtre, mais d'une autre façon, toute seule. Enfin, toute seule avec 2 musiciens.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser.
Cette chanson symbolise la relation entre Serge Rezvani et sa femme Lula, qui a duré finalement plus de 50 ans jusqu'à la disparition de cette dernière. Elle a d'abord été créée par Anna Karina en 1964 dans le film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, puis reprise 2 ans plus tard par Jeanne Moreau sur son deuxième album 33 tours, à la pochette rose, qui obtiendra en 1967 le Grand Prix de l'Académie du disque français. 2 autres chansons de Rezvani sont chantées par Jeanne Moreau à l'écran. « Embrasse-moi » dans le film de Marcel Ophuls « Peau de banane » en 1963 et « Jo le Rouge » dans « Le marin de Gibraltar » en 1967. Cependant, au milieu des années 60, Serge Rezvani délaisse la chanson pour plusieurs décennies, préférant se consacrer à l'écriture de pièces et de romans. Jeanne Moreau, pour sa part, enchaîne les rôles au théâtre, au cinéma, notamment dans le Falstaff d'Orson Welles. Bien qu'elle en ait exprimé le désir à plusieurs reprises, elle hésitera beaucoup à monter un tour de chant. Elle continuera néanmoins à enregistrer d'autres disques, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cet hommage. Vous pouvez retrouver l'intégrale des chansons de Rezvani enregistrées par Jeanne Moreau sur un album édité récemment par les productions Jacques Canetti. En attendant, passez une très bonne semaine à l'écoute de France Musique. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Alexandre Billard à la technique, Christine Amado à la réalisation et Aude Vassan pour les archives de l'INA.
réécouter sur francemusique.fr.